peregrino y váyate con Dios. Bon chemin pèlerin, Dieu te donne la main. Santiago, donne-nous du courage.
Bonjour, c'est toujours avec le même plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée au cheval. Une émission proposée par Jean-Yves Bonnet.
Bonjour à tous.
Et Michel Clément, tous les mercredis et les samedis à 12h30 sur CFM, la radio de proximité dont on me dit que vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter. Et vous avez bien raison. Alors, les chiffres de l'équitation en France, c'est la troisième fédération olympique avec un peu plus de 700 000 licenciés. La seconde fédération mondiale, tous sports confondus, après le foot et le tennis. La première fédération mondiale de tourisme équestre, et je crois qu'on peut tous dire merci Jean-Yves Bonnet parce que tu y as drôlement participé, tu continues à y participer. Et il convient de rajouter à cette statistique les cavaliers indépendants, propriétaires ou non de leurs chevaux, qui en dehors de toute structure officielle pratiquent régulièrement l'équitation. Il ne faut pas les oublier ceux-là aussi.
On peut peut-être espérer un jour avoir un ministre cavalier.
Ah ça Jean-Yves, écoute, on va croiser les sabots, je vais te dire.
Puisqu'on a quand même un champion de judo maintenant comme ministre actuel de la chaîne.
Ah c'est tout nouveau, tu as tout à fait raison, oui. Et donc effectivement, nous pensons particulièrement aux randonneurs, mais également aux bénévoles qui aident les éleveurs de bétail, comme on le voit notamment en Camargue, où beaucoup de gens viennent épauler les éleveurs de vaches, de taureaux, de chevaux, comme ça, bénévolement, à cheval, pour le plaisir de passer une bonne journée.
On les appelle les cavaliers amateurs.
Cavaliers amateurs, absolument, voilà. Qui n'entrent pas dans les statistiques. Donc c'est pour ça aussi, par rapport aux statistiques officielles de la Fédération d'équitation française, etc., on a quand même beaucoup de cavaliers qui ne sont répertoriés nulle part, mais qui sont des cavaliers qui pratiquent régulièrement. Et puis enfin, on ne va pas l'oublier, dans notre pays, 85% des cavaliers sont des cavalières. Alors Jean-Yves, pour une fois, tu arrives sans cavalière, moi je suis embêté, là tu me casse mon début d'émission. Pourquoi enfin Jean-Yves?
Ben aujourd'hui, voilà, on est comme ça, on est entre garçons, et puis, ma foi, il faudra faire avec. Hein.
Bon, ben écoute Jean-Yves, on va faire avec, hein. Écoute, on va être courageux. Hein, c'est vrai qu'elle nous manque, hein. Elle nous manque ces cavalières, mais enfin.
Ben oui, elles apportent un peu de joie, un peu de gaieté, un peu de tout.
Ouais. Alors, dans la rubrique un cheval, un mot, nous allons nous intéresser au mot chevalet. Alors vers la fin du XIIIe siècle, un chevalet désigne tout simplement un cheval de petite taille, sans plus. Hein. Peu importe la robe, peu importe l'origine, la race, c'est un cheval de petite taille et on l'appelle un chevalet. Alors par analogie, chevalet prend vers 1429 le sens technique de support, autrement dit de tréteau, cette sorte d'établi composé d'une poutre horizontale fixée sur quatre pieds, qui permet à l'ouvrier de tenir à la bonne hauteur l'objet sur lequel il travaille. Ça ressemble effectivement à une espèce de petit cheval, un peu comme le cheval d'arçon en fait. C'est par exemple le chevalet du menuisier ou encore celui du charpentier. C'est également vers la moitié du XVIe siècle le nom donné à un instrument de torture sur lequel le supplicié était installé à califourchon, muni de lourds poids attaché à ses chevilles. Ça, c'était plutôt une sinistre équitation, Jean-Yves. Elle n'était pas terrible.
Oui, bien sûr. Il y a aussi une attitude de la part du cheval, parce que dans les plans dedans, le cheval ne doit pas croiser derrière, mais il doit chevaler, donc faire passer un postérieur par-dessus l'autre sans aller au-delà.
Alors comme ça, Jean-Yves, tu dédramatises le mot chevalet. Donc c'est aussi pour l'artiste peintre, le chevalet, c'est là où il place sa toile. On parle aussi de peinture sur chevalet. Et pour en finir dans ce domaine de l'art, le chevalet est la mince plaquette de bois qui sert à soutenir les cordes tendues de certains instruments de musique. On parle par exemple le chevalet d'un violon.
Ça, il y en a des significations hein, dans le mot chevalet. Ça, c'est la langue française.
Alors je crois, Jean-Yves, que tu voudrais lire pour nos auditeurs un texte sur la Camargue.
Ben oui, la Camargue est proche de cette équitation pastorale pratiquée aux États-Unis pour trier le bétail, ou encore, bien sûr, en Camargue, dans la Brivade ou la Fienta, le cheval met toute son intelligence et tout son courage à la disposition de son cavalier. Dans ce face-à-face avec le taureau ou avec la vachette, il est plus que jamais lié à son cavalier par sa complicité, par le risque partagé. Il amène le troupeau, il le trie, il a une certaine intelligence, on lui fait voir un bétail, on lui fait voir une bête, et c'est cette bête qu'il fait un peu comme le chien de berger.
Alors, on va justement s'intéresser à la Camargue et au cheval Camargue aujourd'hui. Alors, Un rapide petit retour historique, ce sont les Phocéens, qui est un peuple venu d'Asie mineure, qui fondent l'actuelle ville de Marseille, qui fondèrent l'actuelle ville de Marseille et colonisèrent le delta du Rhône au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est là qu'ils trouvèrent des bandes de petits chevaux sauvages de robe blanche et parfaitement adaptés à un territoire très particulier, la Camargue. Alors la Camargue, il faut savoir, c'est 56 000 hectares d'une terre en grande partie marécageuse, mi-terre, mi-eau, où alternent de vastes prairies herbeuses et nombre d'étangs d'eau saumâtre sur les bords desquels prospèrent d'immenses roselières. Terre insalubre aussi, où la malaria sévit, propagée et entretenue les deux tiers de l'année par des nuées de moustiques.
C'est oui, vrai c'est que... un cheval qui est fait pour vivre dans le marécage, pour vivre dans le marais, parce que, ne serait-ce que par son sabot, il a un sabot très très large qui fait ventouse, et qui lui permet d'aller dans les marais et de sentir, parce que le cheval sent avec son sabot, le chevaux.
Et en particulier, il sent, c'est vrai, l'épaisseur de l'eau.
Il est tactile, il descend l'épaisseur de l'eau, il a pas l'épaisseur de la terre aussi, parce que dans des endroits, il y a des marais où il y a des tremblailles,
des sables mouvants.
Des sables mouvants, et il risque de s'enfoncer dans le sable mouvant. Donc le cheval détecte tout ça, grâce à son sabot.
Alors jusqu'au milieu du siècle dernier, le cheval camarguais n'intéresse pas grand monde en France. On le trouve trop petit, entre 1,35 et 1,45 au garrot, et certains vont même jusqu'à le considérer comme un poney, ça il faut vraiment pas dire ça.
Comme un double poney. Ouais.
Peut-être un descendant du cheval de Solutré, encore que cette thèse soit toujours discutée par les spécialistes, par les scientifiques. Et puis c'est un cheval qui possède une forte personnalité. Hein. Dans le texte que tu viens de nous dire, on le voit, il vit continuellement dehors, ce qui explique sa résistance aux intempéries, sa rudesse tant physique que mentale.
Aux intempéries et aux mouches surtout, parce que...
Aux mouches, bien sûr.
Par les mouches, hein. Et puis les chevaux sont sensibles à la mouche. Et lui a une peau très très épaisse et très dure et qui lui permet de résister.
Alors il ne s'en laisse pas compter facilement et on le dit secret, difficile. Et pourtant, il est capable de parcourir une cinquantaine de kilomètres par jour en portant son gardien et, plus le harnachement, en moyenne une centaine de kilos. Alors c'est un costaud.
C'est un cheval très solide. Hein.
C'est un costaud absolument, avec sa tête lourde, son encolure courte et trapue, ses membres solides et puissants, son rein court et sa croupe un peu avalée. Et bien que de taille modeste, le cheval de Camargue pèse entre 300 et 400 kilos. Hein. C'est pas un freluquet celui-là. Oui. Alors son mental est à la mesure de son physique, bien évidemment. Habitué depuis l'origine à se débrouiller seul dans un milieu difficile, il a acquis un caractère patient mais déterminé et son côté un peu rebelle est le signe d'une intelligence au-dessus de la moyenne. C'est un cheval intelligent.
C'est un cheval intelligent, bien sûr.
Alors, comme le cheval barbe, ses allures de prédilection sont le pas et le galop. Non qu'il ne sache pas trotter, mais en raison de ses épaules plutôt droites, son trot est très sec, saccadé, assez inconfortable et fatigant pour son cavalier. À preuve, aussi bien en Andalousie pour le barbe qu'en Camargue, seules les juments sont traditionnellement attelées et ne se déplacent quasiment qu'au trot, allure qu'elles peuvent soutenir de longues distances. Donc le barbe, comme le cheval de Camargue, savent trotter, mais c'est un trot qui est effectivement un peu caserin.
Mais aussi, il a une autre allure qu'on appelle la galopette.
La galopette aussi.
La galopette, c'est un petit galop d'école où il est excellent. Oui. Donc, et qu'il peut se déplacer longtemps comme ça, la galopette.
Et l'entrepas aussi, Jean-Yves, qui est l'amble, en fait. Certains chevaux de Camargue pratiquent naturellement l'entrepas, c'est-à-dire l'amble.
Mais on ne peut pas parler du cheval Camargue sans parler de Denis Colomb de Nolan, l'auteur de Crémelin, qui a suscité tellement de vocations équestres, c'est que peut-être beaucoup de cavaliers lui doivent d'être à cheval actuellement. Donc Denis Colomb, qui a vécu au Sainte-Marie-de-la-Mer et qui est enterré malheureusement au cimetière des Saintes, il a été enterré d'une façon particulière, à cheval, puisqu'on peut... dans le cimetière des Saintes, partager et aller à cheval et passer à cheval et aller prier à cheval.
Alors la raison majeure donc du fait que le cheval Camargue privilégie le pas ou le galop en zappant un petit peu le trot, c'est qu'il a été spécialisé dans la garde et le tri de vaches et de taureaux quasiment sauvages et aussi rapides que lui. Donc voilà, il doit savoir s'élancer de l'arrêt au grand galop, crocheter, pirouetter ou encore stopper net, travail pour lequel le trot n'est pas une allure suffisamment rapide et efficace. Évidemment, on imagine mal trier le bétail au trot.
Oui, mais il rejoint un peu les qualités du cheval barbe. Il fallait partir rapidement, s'arrêter rapidement, tourner rapidement, de manière à pouvoir tromper l'ennemi. Et là, c'est pas tromper l'ennemi, mais c'est pouvoir rattraper le trot. Donc, il doit être un peu plus rapide que les vaches et que les taureaux pour pouvoir les dépasser, justement, et les arrêter.
Et c'est un cheval qui anticipe, en plus.
C'est un cheval qui anticipe, on lui fait voir un animal, quel qu'il soit, que ce soit un veau, que ce soit une vache, je me répète, ou un taureau, et c'est cet animal-là qui doit poursuivre, qui doit arrêter, qui doit tourner.
Nous nous retrouvons dans quelques minutes pour la seconde partie de cette chronique après une petite pause musicale. Aujourd'hui, Chocolaté, le grand rejoneador, Debajo de los Laureles, en français, sous les lauriers.
Capote que huela sangre. Ay, alta pena tiene. Queriendo, ya que no te quiere, yo te quiero, pero de vergüenza no te lo peno. Salga usted ya mi puesto, hermosa. No sé con dónde salieron. Castaña de Galarosa, yo vendo camuercí, pero ay, Marina, yo traigo un arao y son de la Sina. Hay batatitas de ronda, como bajea, se amarra el pelo, con una hebra de hilo negro.
Si le cheval Camargue est unique en son genre, son harnachement ne l'est pas moins. D'abord la selle, très proche de la selle à piquer. C'est une selle très solide qui est utilisée quotidiennement et doit résister aux selles, mais également à une végétation souvent épineuse. Moyennement creuse, elle se caractérise par un pommeau assez haut qui fait penser au pommeau de la selle arabe. Petites sacoches.
C'est une selle à piquer, c'est une selle du Moyen-Âge, c'est une descendante des selles de chevalerie.
Alors, deux petites sacoches sont fixées sur le pommeau, donc par des courroies entrecroisées. Et ce pommeau large et haut a pour fonction de protéger des coups de corne, le bas-ventre et le haut des cuisses du gardien. Alors, le trousquin, autrement dit l'arrière de la selle, est comme dans les selles à piquer de la Renaissance, une sorte de dossier qui monte jusqu'au rein du cavalier et lui emboîte solidement le bas du dos. Il est prolongé de part et d'autre par deux coussins, cale-cuisses, qui descendent au tiers de celle-ci et ont comme à l'avant une fonction de protection des coups de corne. De par sa conception, la selle Camargue s'adapte parfaitement à la morphologie du cavalier et doit impérativement être fabriquée sur mesure. Il faut qu'elle soit adaptée au cavalier. Ceci dit, j'avais appris quand j'étais en Camargue que les selles se transmettaient dans les héritages.
Oui, tout à fait. Oui.
C'est-à-dire que véritablement, elles étaient faites pour durer.
Voilà. N'oublions pas la croupière et le collier de chasse.
Alors justement, nous allons y arriver, Jean-Yves. Alors pour cette selle, donc trois sangles la maintiennent, deux situées sous les quartiers qui se fixent au contre-sanglon, et la troisième qui se boucle par-dessus le siège à la manière d'un surfait. Alors, elle est enfin retenue par une croupière, comme tu viens de le dire très justement.
Pour la maintenir pas mal en arrière du garrot, parce qu'on charge davantage.
Voilà, ça l'empêche de glisser en avant en réalité, surtout sur les arrêts brusques.
Bien sûr.
Puisque le cheval, vraiment, de Camargue, pile. Hein, vraiment pile. Alors le bridon est classique et support un mort à branches où l'on ajuste au moyen d'une gourmette assez serrée. Donc c'est vrai que le cheval est quand même relativement coincé.
Et les étriers sont fermés aussi. Donc ce sont des étriers.
Et les étriers sont fermés comme dans toutes les équitations de travail, voilà. Si on voit bien.
Au Portugal, Espagne, certains étriers sont fermés.
Voilà.
Aussi.
Même les vieux portugais espagnols, c'était carrément des sabots en bois.
Enfin, ah oui, tout à fait. Voilà, ouais. Des boîtes. Il y avait des étriers chaufferettes autrefois.
Des étriers chaufferettes. Et ça, c'était pour les archevêques.
Hein. C'était pour les gens et les nobles ou autres.
Et les gentes dames.
Et quand on passait un relais, cet étrier, on le remplissait de braise et on avait pour demi-heure du chaud au pied, parce qu'autrefois, et le danger, quand on est à cheval, l'hiver, c'est le froid au pied.
C'est le froid au pied, c'est vrai, c'est un endroit vraiment où on a très vite très froid, absolument. Ouais. D'autant qu'on est souvent les pieds dans des bottes un peu serrées, et c'est vrai que ça accentue la sensation de froid.
Comme le moine au lit, quoi, c'était un peu la même façon.
Alors, ce bridon est relié à la sangle sous-ventrière par une martingale, effectivement.
N'oublions pas le sedin.
Alors, on va y arriver, Jean-Yves, tout à fait. Non, mais je ne l'oublie pas.
C'est très, très, très caractéristique du
Absolument.
Camard.
Absolument.
C'est fait en crin de cheval, alors donc, c'est
voilà.
Important.
Donc, le bridon est relié à la sangle par une martingale, qui empêche le cheval de trop relever la tête. Il y a aussi cette fonction-là. C'est-à-dire, oui. On ne veut pas que le cheval, évite le mort en levant la tête, ou en encensant, de façon trop haute. Oui. Alors, les rênes sont tenues peu tendues dans la main gauche. Et ça, on voit ça dans toutes les équitations de travail, que ça soit
la conduite
américaine.
C'est l'équitation de guerre.
Voilà, c'est ça. Voilà. Et en fait, les rênes servent quasiment essentiellement. Alors, d'abord, le cavalier s'en les tient dans la main gauche, et elles servent par un effet d'appui à diriger le cheval et à l'arrêter rapidement. Alors, tu peux nous rappeler ce qu'est une rêne d'appui?
La rêne d'appui, on pousse l'épaule, au moment où le cheval lève son épaule, on pousse l'épaule pour la faire croiser, ou pour la faire passer par-dessus l'autre. Voilà. Mais il faut aussi dire que, dans la selle Camargue, on ne peut pas faire de tronc levé. Le tronc, c'est toujours une selle où on doit monter profond, assis, et bien descendu, les très 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 longs, comme on montait autrefois, dans la position de l'équitation de guerre.
Oh, c'est vrai, et ça on le voit effectivement dans toutes les selles de travail ou les selles à piquer, où effectivement on n'a qu'une seule possibilité, c'est de rester assis.
Mais c'est assez récent, le tronc enlevé, puisque c'est par rapport à la selle anglaise que on a
qui permet effectivement
de s'élever en tension de... Et Napoléon connaissait pas ça, il est parti fait des milliers de kilomètres à travers le monde sans connaître le tronc enlevé. Il n'y a plus que Napoléon d'ailleurs, puisque Xénophon...
Donc il était corse, mais peut-être avec un peu Camargue. Donc il connaissait le pas et le galop.
Ah oui, ça c'est sûr. Oui.
Alors à ce bridon est souvent adjoint le cafson, qui ressemble à une sorte de chaîne de bicyclette muni d'un anneau à chaque extrémité et où viennent se fixer une seconde paire de rênes faites en crin tressé, ce que tu as dit tout à l'heure. Donc c'est le cafson. Alors bon, c'est vrai que maintenant de plus en plus en Camargue, cette chaîne de bicyclette est encuirée maintenant pour être moins dure pour le museau du cheval. Voilà.
Parce que la réaction était quand même un peu violente autrefois.
Oui.
Mais là, maintenant, ça s'est...
On voyait des chevaux qui étaient blessés sur le museau.
Non, hein. Si on voit du côté de la guérinière aussi, c'était pas triste. Hein, pour les cavessons étaient violents et puis avec des pointes qui passaient sur le nez des chevaux.
Ah oui. Non. C'est vrai que c'était pas tout doux. Et pourtant, il y avait eu beaucoup d'améliorations avec par rapport aux écuyers d'Italie, Grisone, même Pluvinel. Hein, c'était assez costaud son équidation. Et la broue encore plus. Alors, dans sa main droite, le gardien porte le fer, une perche de bois d'environ 3 mètres de long et muni à son extrémité d'un petit trident de métal. Il sert à diriger les vaches et les taureaux, mais n'est pas conçu pour les blesser. Il peut néanmoins arrêter la charge d'un animal agressif. Enfin, le sédène, Jean-Yves, tu nous en as parlé, une sorte de lasso qui a plusieurs usages. Attraper son propre cheval dans le troupeau, ça c'est la première chose, parce que le Camargue, c'est pas un cheval de boxe. Une vache, attraper une vache, un taureau, ou encore confectionner une sorte de licol, le fameux murayun, qui permet... entre autres, de conduire seul plusieurs chevaux à l'abreuvoir. Alors, dans la séquence People, si l'homme a été trop souvent dur, voire cruel avec ses animaux domestiques et particulièrement les chevaux, cette cruauté, ce sadisme a parfois été porté au comble de l'absurdité. Ce fut le cas pour Iris 6. Ce cheval appartenait au maréchal Leclerc et fut fusillé, tenez-vous bien, lors de la Seconde Guerre mondiale pour le motif d'acte de résistance, car il avait tué un officier allemand. Alors Jean-Yves, on arrive...
Il avait été réputé comme un cheval méchant. Et un cheval méchant, bon, il peut redire... Vas-y, y vais.
Oh, d'ici à le fusiller quand même... Ouais, c'est pas dans ta bouche que tu vas dire ça. Alors Jean-Yves, le dicton du jour, en fait, c'est une expression. Alors là, je vais boire la coupe jusqu'à la lie parce qu'elle me concerne et elle m'a été dite par le colonel Gély qui a été ton instructeur à Saumur.
Et qui a été, il a connu le cheval à Vauvert parce qu'il a trié avec des chevaux Camargue avant d'être écuyer à Saumur.
Alors, avant une reprise, un certain jour, il m'affecte un cheval qui s'appelle Daya, qui s'appelait Daya, qui était une espèce de grand barbe dégingandé et qui avait une raie de mulet. Et voilà ce qu'il m'a dit, le colonel Gély, ton instructeur, à moi. Prends Daya, il te correspond. On verra enfin un âne sur un mulet.
C'était quelque chose de sympa, parce qu'il était méridional, il avait toujours le mot pour rigoler et pour... Il était toujours plein d'humour.
Ah oui, mais ça, je t'assure, oui, mais c'est bon. C'est... Pour le collègue d'à côté, je suis tout à fait d'accord, mais pour ma pomme, un peu moins. C'est avec plaisir que Jean-Yves Bonnet, le messager du cheval, et moi-même vous donnons rendez-vous mercredi et samedi prochain pour une prochaine émission, toujours sur CFM Rodez 107.9 et sur CFM Villefranche-de-Rouergue 90.2. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique Le messager du cheval. À la semaine prochaine. Merci de votre fidélité et un grand bravo à nos chevaux.
Hey, hey, partis les chevaliers, allant des fiers sur leurs coursiers, un grand voyage vers le lointain pèlerinage. Hey, hey. C'est un combat, ami, tu peux me croire, la plus belle des victoires est la victoire sur soi. Hey, hey. Hey, hey. Marche droit et souris. Ton cheval est ton ami pour t'aider à trouver le vrai sens de la vie. Hey, hey, confiance que tu as perdue, ce en quoi tu ne croyais plus, suis-nous sur les sentiers pour la retrouver. Hey, d'aigle mort à Rodez, en passant par sa mièche, tu langues d'autorouègue. Après la mer, les salins, les marais, les garrigues, le plateau du Larzac, la couvertera de Millau, les Vézoux, sa vieille, au milieu du sel. Patrie de Béranger, de Landor, capitale du Rouergue de Rodez, entrée dans la légende de la route du sel. Entrée dans la légende de la route du sel.